Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive sur Radio Shalom. Et comme chaque semaine, nous sommes en ligne avec Ravili Lemel. Bonsoir, Rav Lemel.
Bonsoir.
Alors, comme nous le faisons ensemble chaque vendredi, nous survolons la paracha de notre semaine. Et donc là, on est arrivé à celle qui s'appelle Kitissa, qui évoque un événement dramatique, fondamental, malheureusement, de notre histoire commune. C'est le veau d'or. Et vous allez poser une question et tenter d'y répondre en disant, on voit qu'il est écrit dans ce texte que Dieu dit à Moïse, lui dit, va, descends. Et comme on le sait très bien, même nous qui sommes des débutants, il n'y a pas de mot en trop dans la Torah. Donc, pourquoi va et descend ? Va, va les voir, ils sont en train de fauter d'ailleurs. Vas-y, un ordre n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de plusieurs verbes pour donner un ordre et se faire comprendre. Alors pourquoi ? Et c'est là-dessus que vous avez envie de réfléchir avec nous ce soir. Pourquoi ces deux mots ?
Exact. On va s'arrêter en effet sur ce terme de l'air va, raid descend, qui chirait Amra, car ton peuple a fauté. A priori, Moshe étant sur le Sinaï, on se doute bien qu'il va devoir descendre. Alors Rashi sur place, évidemment, dit raid, raid migdoulatra, descend du haut niveau spirituel qui est le tien. Maintenant, il va falloir que tu rejoignes ce peuple qui vient de s'écrouler dans cette faute du veau d'or, avec beaucoup de questions. Et je voudrais quand même ouvrir sur deux, trois notions qui sont quand même importantes à développer, même si on n'a pas vraiment le temps de trop les développer. Tout d'abord, il y a quelque chose d'incompréhensible, c'est-à-dire qu'ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont tout vu, quoi. Et d'un seul coup, ils s'écroulent. Alors, on sait très bien qu'en effet, celui qui est là, c'est en effet... à ce moment-là, ils sont dans une situation. Enfin, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Je suis un peu hésitant parce que c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, ils ont tout vu, et puis boum. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le Erev Rav. Il y a ce peuple, d'ailleurs, le texte nous dit bien, qui chirait un bras, il y a Moshe, mais c'est ton peuple. C'est-à-dire, n'oublie pas que c'est ce Erev Rav, c'est ces Égyptiens que tu as décidé, entre guillemets, de convertir qui sont à l'origine de ça. Mais néanmoins, le peuple d'Israël ne s'oppose pas. Il ne va pas se dire « c'est pas possible ». Comment on peut comprendre ? Le Beit HaLevi, qui est un des grands commentateurs, j'ai envie de dire presque contemporain, eh bien, va poser une autre question. Il va dire « mais au fond, si on regarde dans le Mishkan, dans le sanctuaire du désert, et puis dans le Beit HaMikdash, dans le temple, il va y avoir quand même aussi là-bas ce qu'on appelle les Krouvim, les fameux chérubins. Et les Krouvim, ces fameux chérubins, qui ont l'apparence d'un jeune homme et d'une jeune fille, on sait très bien qu'il y a aussi un mouvement avec eux, puisque quand Dieu est proche de son peuple, eh bien, il s'enlace. Lorsque Dieu est loin de son peuple, il se sépare l'un de l'autre. Donc, pourquoi ne pas entendre, et comme ça disent bon nombre de commentateurs, que, eh bien, au fond, le peuple d'Israël, à ce moment-là, pense que Moshe ne va plus redescendre. Et puisqu'il ne va plus redescendre, eh bien, est-ce que vraiment quelqu'un va pouvoir prendre la place de Moshe ? Ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Moshe, c'est quand même celui qui a parlé à Dieu en face à face, et donc peut-être que ce veau d'or va pouvoir jouer l'intermédiaire. Donc, est-ce que vraiment ils veulent faire de l'idolâtrie telle qu'on le comprend ? Néanmoins, on voit que c'est extrêmement lourd, cette histoire, puisque cette faute-là, on va la payer tout au long de l'histoire. Et le Beit HaLevi donne une réponse qui est magnifique, il dit au fond, il y a une petite différence, mais elle est colossale, c'est que dans le cas des chérubins, c'est Dieu qui a donné l'ordre, et là, c'est le peuple qui a pris l'initiative. Et c'est là où, en effet, il va y avoir une différence fondamentale entre les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe, au fond, à ce moment-là ? Eh bien, on a ce mot, l'air raide, va et descend. Raide, c'est un mot qui est constitué de deux lettres, le resh et le dalet. Et on va, si vous le voulez bien, pour comprendre un petit peu mieux les choses, d'abord faire un petit détour par un texte du Talmud qui est assez surprenant. Le texte du Talmud nous dit, lorsqu'un sofer, lorsqu'un scribe est en train de rédiger un Sefer Torah lorsqu'il est en train de l'écrire, il doit faire attention à ce qu'une mouche ne vienne pas sur l'encrier et qu'elle puisse prendre avec ses petites pattes un peu d'encre et que se promenant sur le Sefer Torah, elle aille sur la lettre Dalet et qu'elle transforme cette lettre Dalet en lettre Resh. Alors, pour celles et ceux qui connaissent l'alphabet hébraïque, c'est relativement simple, mais on peut l'expliquer à tout le monde. La lettre Dalet et Resh sont deux lettres qui ont une graphie quasiment identique. Le Dalet, c'est tout simplement une barre supérieure et une barre inférieure et un angle droit. Et la lettre Resh, c'est la même chose, si ce n'est que ce n'est pas un angle droit, c'est légèrement arrondi. Et donc, on peut imaginer qu'une petite mouche qui viendrait à l'extrémité de la lettre Dalet, sur cet angle droit, et qui rajouterait un peu d'encre, pardonnez-moi, eh bien, transformerait cet angle et ferait un arrondi, et on lirait ici, eh bien, un Resh. Super. Et donc, eh bien là, vous allez ouvrir le Sefer Torah, vous allez constater que lorsque la Torah nous cite cette phrase fondamentale que chaque juif connaît, qui est le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est Echad et un, le Dalet du mot Echad, un, est un grand Dalet. Il est ce que l'on appelle Dalet Rabati, c'est-à-dire, dans un langage plus informatique, on dirait qu'il est en police 16, alors que le reste du Sefer Torah est en police 12. Mais intéressant de voir que, eh bien, dans un autre verset de la Torah, il y a marqué qu'il otishtachave le El Acher. Tu ne peux pas te prosterner devant une autre divinité. Et le mot Acher s'écrit comme le mot Echad. Acher, Alefret, Echad, Alefret. Les deux premières lettres sont identiques, mais la troisième lettre n'est pas la même. Dans le mot Echad, la troisième lettre, c'est la lettre Dalet. Et dans le mot Acher, la troisième lettre, c'est la lettre Resh. Et donc nous avons ici, en effet, dans un verset, Dieu est un, Echad, avec la lettre Dalet, et dans l'autre verset, Acher, une autre divinité. Et c'est ce que le Talmud nous dit, attention à ce qu'une petite mouche ne vienne pas prendre un peu d'encre et transformer ce Dalet de Dieu est un en Acher, Dieu est autre, avec toute l'implication que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire rentrer dans l'univers de l'idolâtrie. Oh, Et donc, qu'est-ce que ça va faire ici? Eh bien, on va s'arrêter justement sur cette image de la mouche. Et une mouche au fond de 19 mètres, vous constaterez que lorsqu'elle y a face à elle plusieurs fruits, eh bien, elle se posera toujours sur le fruit sur lequel il y a une légère entaille, une légère ouverture, quelque chose qui n'est pas parfait. Dès le moment où il y a dans le fruit une encoche, eh bien, c'est là où elle va venir et elle va s'installer et on sait ce que ça peut produire par la suite au niveau du fruit, de la même manière au niveau d'une peau. Et de là, nous voyons qu'au fond, le danger de ce point de passage entre le Echad, c'est-à-dire cette foi pleine et entière dans le Créateur de l'univers, même si à un moment, Moshe ne descend toujours pas, et cette ouverture vers El Acher, alors nous allons nous-mêmes inventer un nouveau modèle. Alors oui, bien sûr, hein, ce modèle, c'est pour la bonne cause, mais c'est nous qui l'inventons. On n'est pas intéressé à savoir qu'est-ce que Dieu en pense en interrogeant les Chachmei Israël, les maîtres du peuple d'Israël. C'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais c'est le point de départ d'une catastrophe. Et d'ailleurs, le verset par la suite le dit de manière très intéressante, puisque lorsque la Torah nous parle donc de ce moment dans lequel le peuple d'Israël va commencer à faire toute une ambiance autour de ce veau d'or, eh bien, le verset dit, ils ont d'abord amené des offrandes, mais les premières offrandes c'était Ola. Ola c'est une offrande qui s'offre totalement à Dieu, elle est totalement consumée sur l'autel. Et puis après, dit le texte, Vayagdishu Shlamim. Ils amènent deux types d'offrandes, mais ces offrandes-là, il y a une partie qui est consumée sur l'autel, mais une partie qui est déjà consommée par celui qui l'amène. Et puis le verset continue. Et nous dit, Vayeshu Lechol Veshato. Et puis par la suite, ils s'installent, ils mangent et ils boivent. Et là, on ne sait plus vraiment où est Dieu. Et quatrième partie du verset, Vayakum le Tzachek, il se lève, le Tzachek, pour rigoler. Traduction pour se livrer à la débauche. Et nous savons, et comme on le dit dans le Lechadodi, Sof Maaseh Marshavatrila, que la fin de l'histoire révèle l'intention que l'on avait au début. Eh bien, c'est un petit peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire que, sans doute au niveau de ce Erev Rav et de ceux qui ne sont pas opposés, il y avait quand même dans l'acceptation de la place que doivent occuper les maîtres du peuple d'Israël, et c'était ici en l'occurrence Aaron, le frère de Moshe, qu'on aurait dû interroger. On aurait dû dire, Aaron, on fait quoi? Yaron leur aurait dit, eh bien, on attend, parce qu'il va sans doute arriver. Non, on n'interroge pas. Pourquoi ? Pour la bonne cause, hein. Parce que les gens vont être angoissés, parce que si Moshe n'est plus là, il faut trouver un système. Mais au fond, derrière cela, il y avait peut-être quelque chose de beaucoup plus problématique. C'est cette envie, à un moment, de se libérer de ce poids, de cette contrainte que représentent les sages du peuple d'Israël, et de faire un petit peu ce que l'on a envie soi-même de faire, même si au début, on prétexte que la raison première est la plus belle qui soit. L'air raide, Hachem dit à Moshe, va, descend. Il y a eu ce point de passage entre le Dalet et le Resh. Il y a eu cette petite mouche, cette petite ouverture qui s'est créée, bien sûr, avec peut-être de très nobles intentions, mais c'est peut-être pas si sûr que cela. Et voici maintenant où se situe la catastrophe. Moshe va descendre, et puis, bien sûr, de manière incroyable, il va se battre pour le peuple juif. Et Dieu l'aide à se battre, puisque quand Dieu a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte », alors Moshe va dire « Non, mais tu as dit ton Dieu, il pensait que tu parlais peut-être qu'à moi. Hein » alors, peut-être qu'au fond, ils étaient pas sûrs que ça les concernait à eux en direct. Et Dieu dit « On peut l'entendre. » Donc, on voit en même temps l'amour immense que Moshe a pour son peuple et l'amour que Dieu a pour le peuple d'Israël, vu qu'il y a cette possibilité quand même de récupérer. Néanmoins, il y aura tout un travail tout au long de l'histoire de reconstruction par rapport à l'histoire du veau d'or. Et ce travail, c'est justement de tendre vers cette perfection, de faire en telle sorte que la parole des Chachmei Israël, des maîtres du peuple d'Israël, soit pleinement entendue et que l'on soit sûr que les intentions qui nous animent lorsque l'on veut faire avancer l'histoire, eh bien, soient sous-tendues par quelque chose qui soit le plus authentique et le plus vrai qu'il soit.
Eh bien, Rabbi Lemel, j'ai l'impression, en vous écoutant, que ce que vous décrivez un peu, c'est le principe du dérapage, non ? La mouche. C'est voilà, tout petit dérapage et ça peut mener très très loin. Merci pour ce très bel enseignement. On va tenter de mettre ça en application, c'est pas facile. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Tout de suite pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai Biton. Shabbat Shalom.
Bonsoir, Shabbat Shalom à tout le monde.
Shabbat Shalom à Jérusalem. Alors vous allez un peu décaler le jeu, si j'ose dire. Oui. C'est vrai que c'est toujours en liaison avec notre paracha, mais vous allez parler du fait qu'on est Shabbat para. Car vous nous aviez expliqué, vous, les rabbanim de cette émission, qu'on a quatre grands Shabbats avant Pessah qui sont comptabilisés tels quels. Et donc là, on est un Shabbat para. Alors, para, c'est l'un des passages les plus incompréhensibles, paraît-il, peut-être même incompréhensible. Qui sait, ça existe aussi dans le judaïsme, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est celui de la vache rousse qui purifie une vache rousse, qui doit être entièrement rousse et qui doit purifier. Alors, c'est quoi ce concept de purifier dans le judaïsme ?
Alors effectivement, c'est un concept qui est fondamental, et pour bien le comprendre, on va aller retrouver le Rambam Maïmonide dans son Pérouche à Mishnayot, dans son commentaire sur les Mishnayot, c'est-à-dire sur la première partie du Talmud, sur le sur les Mishnayot, le traité des Mishnah qui parle justement de para, donc de ce concept de la vache rousse. Alors la vache rousse, c'était une vache qui devait être entièrement rouge, qu'on brûlait, on prenait les cendres, on les mélangeait à de l'eau, et on aspergeait une personne qui s'était rendue impure au contact d'un mort, par exemple, et ainsi on la rendait pure, et ainsi elle pouvait participer, par exemple, aux fêtes de Pessah. Alors, le Rambam, Maïmonide, dit quelque chose d'absolument extraordinaire, et qui est un enseignement fondamental au sujet de la purification. Dans la Mishnah 3, donc au chapitre 3, Mishnah 3, il dit la chose suivante. Il dit, il faut savoir qu'il y a deux sortes de personnes qui sont pures dans le peuple juif. Il y a une personne qui a toujours été pure, qui ne s'est jamais rendue impure. Elle est en quelque sorte tzaddique complètement. Cette personne était à une hauteur morale extraordinaire. Elle a toujours été pure. Puis il y a la personne qui s'est rendue impure et qui va donc subir les aspersions des cendres de la vache rousse et qui va se rendre pure. Il y a le Baal Teshuvah. Il y a la personne qui était en quelque sorte entre guillemets impure et qui s'est rendue pure. Et le Rambam va dire cette personne qui s'est rendue pure par le fait qu'elle a observé la loi de la Torah, qui est donc de s'asperger de ces eaux dans lesquelles il y a les cendres de la vache rousse, eh bien, cette personne, sa tahara, sa pureté, a une valeur supérieure à celle de la personne qui a tout le temps été pure. Pourquoi ? Parce que cette tahara lui est conférée par la Torah. Et la Torah, c'est l'intelligence d'Hachem. c'est un décret du ciel, c'est un décret divin qui lui accorde cette pureté. Et cette pureté est beaucoup plus forte et beaucoup plus fond, beaucoup plus élevée que la pureté, entre guillemets, naturelle ou la pureté permanente, entre guillemets, d'une personne qui n'aurait jamais fauté. C'est ce que le sage me dit, hein, ce qu'il me dit, que le Baal Teshuva est à un niveau où les tzadikim gmurim, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Alors ce concept, il est fondamental, parce que c'est quoi l'histoire de Pessah ? L'histoire de Pessah, c'est l'histoire d'un peuple dont le sage nous dit, nos ancêtres, qui sont arrivés au 49e degré d'impureté, et que Hachem va chercher, et Hachem décide d'en faire son peuple. Et donc le niveau qu'il va leur donner, lui, Hachem, parce qu'il décide de leur donner, de nous donner à nous ce niveau-là, d'être des serviteurs d'Hachem, eh bien c'est un niveau incomparablement supérieur, en quelque sorte, à ce qu'aurait été celui d'un peuple qui n'aurait jamais été esclave. Et là, il y a un enseignement qui est un enseignement fondamental. C'est qu'en fait, l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire d'un peuple qui va se rédimer, qui va se relever. Et c'est la même chose, on sort de Pourim, par exemple, où on observe qu'un peuple qui a participé au festin de la Suez, enfin une partie du peuple en tout cas a participé, va faire une teshuvah, et cette teshuvah, elle va entraîner la création, en quelque sorte, l'apparition des fêtes, qui s'appelle Pourim. Alors c'est intéressant parce que dans le Midrash, on nous rapporte que Pourim, ça fait référence au mot « l'effacer », c'est-à-dire « effacer ». Ishaï Eferenu Ishaï Timenu au sujet des vœux qu'une femme peut faire, on nous dit que son mari va l'effacer. Mais le Midrash du subrepticement dit qu'une femme, c'est Esther, va effacer le mauvais décret qui avait été donc pris contre les peuples juifs. Et donc c'est là qu'il va apparaître la fête de Pourim en référence à l'effacer, effacer, et non pas seulement au sort. Et donc là encore, on a une fête qui va rester après l'apparition du Mashiach, qui est une fête dans laquelle le peuple juif s'est rédimé, il s'est relevé. Il a retrouvé en quelque sorte sa relation avec Hachem. Et ça, c'est un message qui est tout à fait fondamental. Cette idée que finalement, qui est une idée fondamentale dans le judaïsme, qui est que finalement, jamais rien n'est perdu. Parce qu'une personne qui choisit de se relever, eh bien, elle repartira beaucoup plus haut que son point de départ. Et ça, c'est un enseignement fondamental qui est chargé d'espoir au titre individuel et même au niveau collectif. Je voudrais rappeler aussi une chose. Un petit clin d'œil aussi. L'année dernière, on était en plein début de la crise du Covid, et il y a eu un Shabbat, il y a eu un week-end, un moment où il a été décidé en Occident qu'on arrêterait de se faire la bise. Les hommes et les femmes arrêteraient de se faire la bise. Ça fait un an que les gens ne se font pratiquement plus la bise, et qu'il y a moins de contact physique, en quelque sorte, je peux dire, entre les hommes et les femmes. C'est intéressant parce que c'était intervenu au moment du Shabbat, comme si en quelque sorte le temps, lorsqu'il est accompagné d'une mitzvah particulière, ce temps il avait une force, il avait une prégnance sur tout le monde. C'est un petit clin d'œil, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Notre quotidien est souvent chargé de rémésim, de clin d'œil comme ça, à l'actualité toraïque, à l'actualité de la paracha, et ça valait la peine, je crois, de le revenir. En tout cas, à tous et à tous, Shabbat Shalom. Et qu'on ait la joie encore d'assister. Il faut le souhaiter quand même d'assister à la fin de cette pandémie et à la délivrance finale qui fait Shabbat Shalom à tout le monde.
Shabbat Shalom, Rav Mordechai Biton. Et on sait bien sûr que la paracha est toujours en lien avec notre actualité, surtout celles qui sont avant Pessah, car nous sortons d'Égypte. C'est pas qu'on raconte une histoire qui est dépassée. Chas v'shalom. Merci à vous, Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadray. Bonjour Maria Chah, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom Bernard.
Shabbat Shalom Oumévoir. On continue notre réflexion sur la paracha de cette semaine. Et il se trouve qu'il y a un dialogue, un plaidoyer en fait, entre Moshe Rabbeinu, entre Moïse et Dieu, au moment où Dieu lui dit « Tu vas devoir descendre, il y a une énorme faute, ton peuple a fauté. » Mais Moïse, il ne se laisse pas, on a envie de dire, il ne se laisse pas faire. Ouais. Il se bat pour les Juifs, et, alors qu'il n'est évidemment pas du tout partie prenante de cette pauvre histoire. Et vous y voyez-vous, Maria Chah, donc c'est là où on va vous écouter, vous y voyez-vous dans la façon dont Moïse fait revenir en arrière, si on peut s'exprimer ainsi, Dieu dans cette histoire, et ben c'est une, comme d'habitude, c'est une feuille de route, c'est une méthode que nous on doit apprendre et tenter d'appliquer. Dites-nous.
C'est ça, tout à fait. Alors, en fait, on est dans une paracha vraiment passionnante. De prime abord, on se dit, bon, c'est une paracha terriblement triste, hein, parce que le plus beau projet au monde avorte au point culminant. C'est-à-dire, on imagine que là, le monde entier retient son souffle. Enfin, les Bnei Israël ont reçu la Torah, l'ont acceptée. Et du coup, ils vont donner un sens à l'humanité entière. Et voilà que le 17 Tammuz, donc, Moïse descend avec les tables de la loi, voit ce qu'il voit, donc les danses autour du veau d'or, et brise ces tables. Mais en fait, toute notre paracha s'articule autour de la demande de Moshe d'obtenir le pardon de Dieu pour les Bénis Israël, et il va l'obtenir, en effet, le jour de Yom Kippour, où il recevra les deuxièmes tables de la loi. Et on a d'ailleurs, dans notre paracha cette semaine, le rituel de prière de Yom Kippour, les fameuses 13 attributs de miséricorde, puisqu'en fait, la paracha s'articule, on va dire, entre la brisure des premières tables et la réception des deuxièmes tables de la loi. Et c'est pourquoi on est dans une paracha extrêmement proche de nous, extrêmement humaine, qui envisage nos erreurs, nos ratés, nos brisures, nos fractures. Et finalement, elle porte tellement bien son nom, cette paracha, qui tissa quand tu élèveras, parce que c'est vraiment un mouvement vers le haut, c'est vraiment une paracha qui nous invite à réfléchir, à réinterpréter tout ce qui n'a pas fonctionné pour nous ou en nous, toutes les relations peut-être qui ont été abîmées ou que l'on a abîmées, et à pouvoir démarrer un processus à partir de là. Alors, que se passe-t-il ? Tout d'abord, on l'a dit, un raté historique, vraiment historique. Après 40 jours, après avoir reçu, avoir entendu l'étape de la loi, les 10 commandements, voilà que le peuple d'Israël faute. Mais alors, il faut bien se souvenir tout d'abord que c'est un scénario qui est bien connu. On connaît déjà ce scénario de l'état idéal, de l'espoir d'un monde rédimé absolu, et puis, boum, chute vertigineuse, ça va pas, il faut réparer. En fait, on se souvient, c'est l'histoire de l'humanité. Ici est en train de se jouer à l'échelle d'Israël ce qui s'est déjà joué à l'échelle de l'humanité. Souvenons-nous, c'est toute l'histoire de Bereshit, c'est toute l'histoire d'Adam et Ève, qui sont dans le jardin d'Éden, qui sont extrêmement proches du divin, du spirituel, exactement comme les Bnei Israël au pied du Sinaï, et qui reçoivent l'ordre de cultiver et protéger ce monde, donc des mitzvot positifs, des mitzvot négatifs, exactement comme nous, lors du Sinaï, et malheureusement, ils vont enfreindre l'interdit majeur, ils vont consommer de l'arbre, ils vont être expulsés du jardin d'Éden, mais avec l'ordre de réparer ce qui a été abîmé. Eh bien, c'est exactement le même scénario qui se joue ici, au pied du Sinaï, un état idéal de proximité. On a l'impression que le monde a atteint son ultime aboutissement. Dégringolade, le deuxième des 10 commandements n'est pas respecté. Et eh bien ensuite, toute la paracha, c'est la réparation de cette situation. Et en réalité, que ce soit à l'échelle humanitaire, dans Bereshit, que ce soit à l'échelle du peuple d'Israël dans la paracha de Kitissa, ou que ce soit à notre échelle, à nous individuels, pour toutes les fois où on se dit « zut, j'ai loupé la plus belle occasion de ma vie, zut, j'ai abîmé quelque chose de fondamental, est-ce que c'est réparable ? Est-ce qu'il y a un lendemain ? Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce qui s'est abîmé ?» Bien, à chaque fois, on est dans la perspective de ce que nous enseigne Moïse. Il nous dit « Ne te dis jamais que quelque chose est définitivement abîmé. Dis-toi toujours que tu vas pouvoir reconstruire, même sur des ruines de quelque chose d'antérieur. » Alors comment il s'y prend Moshe et qu'est-ce qu'il nous enseigne ? On se souvient, Hachem dit « Ton peuple a faudé, descend, c'est terminé, je les anéantis, je recommence avec toi. » Il n'en est pas question, dit Moïse, efface-moi du livre que tu as écrit, splendide plaidoyer, je refuse d'être l'unique survivant d'une histoire fabuleuse. On continue avec les débris, on continue avec les ratés. Et là, le texte dit, vayechal Moshe. Moshe a supplié. Il a supplié, mais on ne connaît pas exactement le contenu de cette supplication, si ce n'est un midrash savoureux que je voudrais partager avec vous, un midrash fabuleux, qui nous raconte ce qu'a dit Moïse à ce moment-là, quand il est donc en haut du Sinaï et qu'il essaye d'obtenir le pardon de Dieu. Alors, le Midrash nous raconte un épisode qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'était dans la paracha de Béchalar, on se souvient, il y a eu l'ouverture de la mer. Les Bnei Israël sont enfin sauvés des Égyptiens. Ils avancent, ils marchent 3 jours, et au bout de 3 jours, ils découvrent que leurs gourdes sont vides d'eau. Ils ont terminé toutes leurs réserves d'eau. Et les petits ont soif, maman j'ai soif, papa j'ai soif, on ouvre les gourdes, il n'y a plus rien. Et puis, miracle, miracle, on voit au loin un oasis. Ils s'approchent de cette oasis, il y a de l'eau, on se penche vers cette eau, et cette eau est imbuvable. Impossible de boire de cette eau-là, et l'endroit s'appelle d'ailleurs Mara, les eaux amères. Et là, Moïse se tourne vers Dieu et lui dit, Hachem, vraiment, là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. On a un faux espoir en voyant un oasis. On se penche pour boire de l'eau et l'eau est imbuvable. Dieu ne nous envoie pas de faux espoirs qu'on ait directement l'aboutissement. Pourquoi nous mettre dans ces états-là de tenter quelque chose et de voir que ça ne fonctionne pas? Le peuple est dans tous ses états, ils ont besoin de boire. Et ces eaux-là, Dieu, que tu as créées, la manivrer où? Pourquoi les as-tu créées? Elles sont inutiles. Et Dieu lui dit, sache qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit inutile. Et quand tu découvres quelque chose d'inutile dans ta vie, qui te semble inutile, je vais t'apprendre ce que tu dois dire, Ani Melamdecha, je vais t'enseigner, Hearte Omer, comment tu dois parler. Et Morkar dit la chose suivante, Asse et Hamar Matok, transforme-moi l'amertume en douceur. Et Dieu montre à Moïse une branche d'arbre qu'il va jeter dans cette eau et les eaux vont s'adoucir du fait de cette phrase « transforme l'amertume en douceur ». Et le Midrash nous dit que « Hayad avar masoret beyad Moshe ». Moshe a gardé fortement en tête cet enseignement fabuleux. Il dit « oulala, ça, il ne faut pas que je l'oublie ». Et voilà que maintenant, c'est Dieu qui dit à Moïse « ton peuple est inutile, à quoi sert-il ?» Et Moïse de rétorquer à Dieu, mais enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, tu m'avais dit que rien n'est inutile. Et tu m'avais même enseigné de prier et de dire « transforme l'amertume en douceur ». Eh bien, ce peuple a certes de l'amertume en lui, « Rali meriratan shel Israël », guérit l'amertume d'Israël, « rapéotan », apporte-leur la guérison, pour que l'amertume qui est en eux se transforme en douceur. Et c'est cette phrase-là, Asse et Hamar Matok, transforme l'amertume en douceur, qui va conquérir, pour ainsi dire, Dieu, qui va dire « je vois que mes enseignements sont bien utiles, que tu as compris, en effet, que quand on rencontre quelque chose qui semble être inutile, finalement, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de transformer cette amertume en douceur. » Alors, qu'est-ce que ça signifie à notre niveau, ce splendide Midrash? Eh bien, que finalement, combien de fois, nous aussi, dans notre vie, on rencontre de l'amertume. Et on se dit, là, Dieu, cette épreuve, elle ne sert à rien. C'est inutile. Pourquoi encore un échec? Pourquoi encore cet essai qui a avorté, que ce soit dans le domaine du couple, de la parnassa, de la recherche d'un emploi, etc. Combien de fois, on est face à des échecs et on se dit, il n'y a qu'amertume. Et Moshe vient et dit, l'amertume est utile. L'amertume est utile parce que quand on la rencontre, eh bien, il faut qu'on soit capable de transformer, c'est-à-dire d'utiliser, non pas de mettre une croix et de se projeter sur le futur en disant « ça va passer », pas du tout. Il y a une utilité et il va falloir que l'on découvre, des fois on la découvre rapidement, des fois beaucoup moins rapidement, mais il va falloir découvrir l'utilité de ce que l'on a pu découvrir, de ce qui nous est arrivé et pouvoir transformer là-dessus, faire émerger là-dessus quelque chose qui est de l'ordre de la douceur. Et en effet, le kippour qu'on reçoit avec les 13 attributs de miséricorde, c'est vraiment cette capacité à transformer l'individu, à transformer les événements de l'individu. Et d'ailleurs, on se souvient que quand Dieu fait cet enseignement à Moshe, il lui dit « prends une branche d'arbre et jette-la dans l'eau ». Etz. Et le etz, c'est l'arbre, c'est la végétation qui évolue, qui pousse, c'est quelque chose qui va pouvoir croître, qui va pouvoir se déployer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ici une invitation du Midrash à nous faire réaliser qu'il y a une force de déploiement en nous Et d'ailleurs, puisqu'on est en Hadar et que Nissan, c'est aussi le mois de la joie, eh bien, Rav Moshe Shapira fait cette remarque extraordinaire. Et il dit que la simcha, la joie, ce n'est rien d'autre que la tsmicha. C'est les mêmes lettres interchangeables, le sin et le tsadé. Et tsmicha veut dire croître, pousser, aller vers le haut. Et donc finalement, être préoccupé par la simcha, c'est être préoccupé par cette possibilité qui se trouve à l'intérieur de nous, de nous développer, de nous déployer. Et même quand on découvre de l'amertume et quelque chose qui nous semble inutile, faisons comme Moshe et disons « Dieu, transforme-moi cette amertume en douceur ».
En vous écoutant, je me disais que vous feriez le lien et voyant qu'après vous avez parlé des mois, j'ai dit voilà, maintenant elle va faire le lien avec le Maror de Pessah.
Exact. J'y suis pas encore. J'ai commencé le ménage, mais je suis pas encore arrivée au Maror. Mais c'est vrai.
On va finir sur le Maror. On est dans les quatre Shabbats avant Pessah. Et bien sûr, avec vous.
D'ailleurs, le Maror, on le mélange à la Charoset, à un moment qui est douce, pour montrer que tout ça, c'est une seule et même unité. Tout à fait exact.
Avec vous, on va prier pour que ces semaines, on est en train de faire une année, vous vous rendez compte, une année d'épreuves. On se souvient tous de Pourim de l'année passée, de Pessah de l'année passée, et qu'on va transformer ce Maror, cette amertume, en une joie immense d'avoir tous ensemble vaincu quelque chose. Maria Chadré, je vous remercie et vous souhaite, dans le même mouvement, un beau et chaleureux Shabbat. Shabbat Shalom.
Plein de douceur à vous tous, aussi à tous les auditeurs. À bientôt.
On retrouve à présent une histoire pour Shabbat qui vous est présentée par Raphaël Kleinman.
Bonjour à tous, on se retrouve pour notre chronique Une histoire pour Shabbat. À l'époque, durant la guerre, il était interdit en Angleterre, dans la plupart des maisons, d'allumer des lumières. Pour justement ne pas se faire repérer et pour pas montrer que les maisons étaient habitées. Alors bien entendu, il y avait une solution à cela. Les gens mettaient des rideaux noirs et épais devant leurs fenêtres. Comme ça, ils peuvent allumer une lumière à l'intérieur sans qu'on le voie de l'extérieur. Et pour ça, ils allaient commander des rideaux spéciaux selon deux caractéristiques. Première caractéristique, la distance entre l'ampoule et le rideau. Et la seconde, c'est l'intensité de l'ampoule. Parce qu'en effet, plus l'ampoule est proche du rideau, plus le rideau devra être épais. Et pareil, si l'ampoule est forte, alors le rideau devra aussi être plus épais pour pas que la lumière surgissent à l'extérieur. En réalité, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Akadosh Baruch Hu, moins on le voit, plus ça a l'air épais, plus on a l'impression qu'il y a un voile entre lui et nous, plus ça veut dire que la lumière qui veut nous donner l'intensité de cette lumière ou bien la proximité de cette lumière avec nous est forte. Mis la voile. Comme on voit dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu, il nous dit « Tu me verras de derrière, mais ma force ne sera pas vue. » Dieu, il se voile. Et c'est justement ce voilant que si on le reconnaît, là, on va avoir du mérite. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus de mérite que les anges? Parce que les anges, ils n'ont pas de yetzer hara, ils n'ont pas de mauvais penchant. Donc chaque chose qu'ils font, c'est naturel pour eux. C'est leur ordre naturel. Mais nous, parfois, on doit aller contre notre nature, contre notre rationnel, pour pouvoir reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et donc, pour ça, un principe fondamental qu'on doit toujours se rappeler, c'est moins je vois Akadosh Baruch Hu, moins j'ai l'impression de le voir, plus ça veut dire qu'il est présent. Parce que plus l'ampoule est proche du rideau, plus le rideau doit être épais. Et comme Dieu ne veut pas se montrer explicitement, alors on doit comprendre que plus c'est épais, plus il y a des choses, et chaque chose qui m'arrive, c'est que forcément Akadosh Baruch Hu est derrière. D'ailleurs, dans le traité Brachot, à la page 60, Amoud Bet, au verso, il est rapporté une histoire où un Rav se promenait avec un âne, un coq et une bougie. Et il devait aller d'une ville à une autre. Il s'arrêtait dans le désert et quand il s'est réveillé le lendemain, ses animaux étaient morts et sa bougie s'est éteinte. Là, il aurait pu se dire « C'est horrible, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon moyen de transport, mon réveil qui était le coq et ma source de chaleur et de lumière qui était la bougie. » Mais au lieu de dire ça, il a dit « Gamzoletova, même ça c'est pour le bien et merci Dieu. » Et quand il a marché un peu plus loin, il s'est rendu compte que dans la ville d'à côté, des brigands étaient passés durant la nuit, avaient pillé et tué tout le monde. Et si ces animaux étaient toujours en vie et que sa lumière était toujours allumée, ils se seraient fait repérer. Et c'est pour ça qu'avant même d'avoir vu le bienfait de la chose, il a remercié Dieu, parce que tout ce qui arrive, même si on ne le voit pas directement à cause du voile, tout est toujours pour le bien. Razakobor tout le monde.
Voilà, c'était une histoire pour Shabbat qui vous était présentée comme chaque vendredi par Raphaël Kleinman. Cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous dire Shabbat Shalom à tous et à toutes. Et j'ai le plaisir de vous retrouver à 18h pour le journal complet. Shalom le boy na boy ma shem lo yishmari shav shokat shoy mai ma shem lo yine bayis shalom le boy na boy ma shem lo yishmari shav shokat shoy mai.